matinale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boutali, avec Morgane Gadignan, Guillermo Guiz, Tom Villa, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Et bonjour Daniel. Et notre invité? Non.
Si.
Riyad Sadouf.
Il était là il y a 15 jours.
C'est un peu notre frère à tous. Il est sur mon livret de famille depuis peu.
Il a un badge d'entrée France Inter.
Je crois que c'est celui qui vient le plus de la bande.
Oui.
Il vient plus souvent Guillermo.
Oui, il est plus souvent là Guillermo.
Attends,
il est chanchon.
Je pensais, j'ai fait la même blague juste avant.
Ouais. Chanchon.
Ce sont les cahiers d'Esther. Elle a 16 ans maintenant, Esther, et on va en parler et en rire avec Riyad Sadouf. C'est le sixième et paraît-il le dernier. Je me demande si c'est.
Avec Riyad, on se peut fier.
Bah, faut aller à la majorité.
Elle est encore. Mais ce que j'allais dire, ouais, elle est encore mineure.
Non.
Enfin,
après ça descend.
Non.
C'est le juge qui a dit ça, Nagui.
Jean-Luc Gaillet aurait pu dire cette phrase, mais autant
non, il aurait dit trop vieille.
Autant l'accompagner jusqu'à sa majorité, t'as totalement raison. Ça sera. Allez, la première question. Soyons fous.
Tanguy, asseyez-vous.
Allez.
Oui. Jouons avec.
Tom.
Ouais.
Johnny.
Non. C'est pas Johnny.
Leïla.
Non, Tom.
Non.
C'est Leïla.
Ah oui. Et c'est Eddie Mitchell.
Ah non, alors tu sais ce qu'on m'a dit?
Ouais.
Elle a crié plus fort.
Non, mais peu importe.
Ça, c'est la technique.
Mais qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce que vous entendez en premier?
Non, mais je peux le. J'ai merdé.
Ok, un point pour Leïla.
D'accord.
On est père sur Eddie Mitchell.
Ouais.
Qui chante ça?
Daniel,
really ouais. Chuck Berry,
oui.
Sweet Little 16.
Ah.
On va vite passer autre chose.
Et Eddie Mitchell, c'était avoir 16 ans aujourd'hui. Peut-être que nous sommes sur une piste de thème. Qui chante ça?
Ouais.
Voilà.
Leïla, Dalida, non.
J'aurais fait un peu la même, aller au pif.
Ouais,
Leïla, non,
Leïla.
Daniel.
Ouais.
Marie Lafoy.
Joli.
Ouais, bravo. J'ai dit Leïla quand même.
Fais-moi l'amour comme à 16 ans. On est d'accord que cette chanson ne pourrait pas sortir aujourd'hui.
Et on espère bien qu'elle ne pourrait pas sortir aujourd'hui.
Non, mais je ne suis pas si sûr. Les gens mûris, ils viennent plus rapidement à tout ça quand même, je pense.
Bah, vous dites ça parce que vous n'aimez pas l'amour.
Qui? Fais-moi l'amour. Elle était bien cette chanson.
Non, check.
Moi j'aime bien Marie Lafoy.
Ouais, bah moi aussi.
Non, je parle de voix. Et ça?
Jean-Michel Jarre?
Non.
Jeanne Mas?
Non plus.
Désirless?
Jackie Quartz?
Alors c'est plus vieux.
Ah.
C'est possible.
Gloria Lasso?
Non.
Star Wars?
Une petite fille.
Leïla,
c'est Jérôme.
Oui.
Oh oh,
j'ai hésité avec le chanteur des musclés là.
Bernard.
Ça c'était
les
bien.
Les deux sont dégoûtés. Bernard est dégoûté que tu les compares. C'est là. Les deux sont dingues.
Et c'est Jérôme ne nous entend plus. Donc des coups ils sont.
Oh, méfie-toi. Bah,
c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Mais bon.
Attention.
J'avais un peu oublié qui était mon.
Pas lui.
Ça s'appelait.
C'est la phase B.
C'est 16 ans. Lui, toi, lui,
chante. C'est une musique instrumentale après.
C'est bien ce qu'il sort la tête de
fille. Petite fille se réveille à 16 ans. Comme une hirondelle. Le jour est à peine levé. Qui chante ça?
Chuck Berry, la deuxième.
Non. J'aurais
les chaussettes noires.
Marianne, Elvis?
Non, bah non.
Non. You're 16.
Ah,
Tanguy, Jean Vincent?
Non!
Tom's? Ah, bah si on joue plus, on fait le jeu, alors Super Tramp?
Mais donne ton téléphone, Nagui, je vais répondre.
Vince Taylor?
Super Tramp?
Vince Taylor?
Non! Super connu! Alors je vais vous dire, il a un instrument de prédilection, c'est la batterie.
Mais Ringo Starr! Ringo Starr.
Oui, Guillermo.
Ah.
You're 16.
On connaît pas trop sa voix, en fait.
Non.
Mais il a pas une très belle voix.
Non.
Elle a pas beaucoup de sens, cette voix.
là aussi. Les paroles. Lui est bel et bien vivant.
Les paroles.
You're Bernard Minet.
You're 16, you're beautiful, you're mine.
Oui, mais je disais surtout. Oui,
impossible. Qui parle de sa bagnole. Vous jugez une époque avec le regard d'aujourd'hui.
Bien, monsieur Zemmour.
C'est ce qu'a dit Marc Dutroux à sa.
Il en a dit des trucs.
You're 16. Pour l'instant, seulement, vous n'avez pas trouvé beaucoup de titres, n'empêche.
Bah, c'est très complexe ouais, aujourd'hui.
Alors, ça, c'est super connu.
Daniel, il est idol.
Joli. Et ça s'appelle
Sweet 16.
Sweet. Little 16.
Non, non, Sweet 16.
Quand il se réveille, tout d'un coup. Sweet 16. Ouais. Ouais.
Gros swing, Sweet 16.
Tu me doutes, mais je crois que c'est Sweet Little 16.
Oh my, Sweet 16.
À quel
au moins il a une voix. Contrairement.
Au moins lui il a une voix. Contrairement au con anglais.
Alors, 2 points pour Daniel, 2 points pour Leïla Kado, vous voulez dire. Rien pour Morgane.
Non.
Mais elle est pas là.
Mais elle arrive. Ah. Coucou, je me garais. Mental dit quoi. Je me garais. Ah, je croyais que tu je me caresses.
Moi aussi j'ai entendu ça.
Vous êtes tordus tous les deux.
Ah, ouais, faut arrêter.
Ça va, je me garais. Non, mais tu peux aussi
pas. Ah non.
Tout se joue maintenant. Il y a forcément 16.
Jamais le vendredi, tu sais.
Il y a forcément 16 ou 16 ans dans le titre. Ça rapporte 3 points à la victoire.
Daniel.
Il y a un coup de fil.
Jean-Michel Jarre.
Non.
Non, je te disais juste qu'il y avait un petit coup de fil.
C'est vrai. Tente.
Chuck Berry.
Non, allô. Ouais, Weshden, c'est fun.
Voilà. Ryan, Big Royoli. Non, Weshden.
C'est pas pour moi, ça.
Tu travailles trop.
Tom.
Ouais, Weshden.
Il a dit fun, c'est son producteur. Je te
jure, c'est moi, tu.
C'est nul.
Bien joué, victoire de Morgane.
On l'écoute pas plus souvent.
Gagnant, et merci d'accueillir Riyad Satouf.
La bande originale.
Ça s'appelle du vol, hein.
Non, elle était belle la déduction.
La
il dit allô, c'est Feneux, je sais que c'est son producteur.
Mais attends, elle a gagné, elle a gagné.
Bah ouais, mais c'est le principe c'est du super banco depuis le début de la saison.
Feneux, ah, moi je croyais que c'était Fun, le téléphone. C'est... Genre ça sonne, téléphone. Bon, c'est pas grave.
Riyad,
comment ça va, Riyad Satouf?
Ça va,
on est ravis de vous accueillir. La première question est posée par Tom Villa.
Bonjour.
Comment ça va?
Non.
Non, non, jusqu'à quand on va pouvoir suivre les aventures d'Esther?
Impossible que ce soit le dernier tome.
Ah bah c'est pas le dernier tome.
Ah voilà, je savais bien.
Voilà. Non. C'est le dernier publié.
C'est le dernier tome publié.
Ah, ok. Et
jusqu'à quand on la lâche quand, Esther?
La majorité.
Chaque fois, il va faire le coup détourné d'Adieu comme ça.
Comment ça tourner d'Adieu à 16 ans? Non, le projet des Cahiers d'Esther, c'est de la suivre jusqu'à ses 18 ans.
Voilà, très bien.
C'est vraiment l'âge où on est reconnu un peu comme adulte par la société. C'est-à-dire on peut être condamné à la perpétuité. C'est 18 ans. Donc voilà, je l'avais la suivre jusque-là.
Non, mais sans blaguer.
Oui, c'est ça.
C'est parce qu'on peut être condamné à la perpétuité qu'on est un peu adulte.
Elle est responsable de ses propos pénalement. Là, aujourd'hui, elle peut dire toutes les horreurs. Elle est c'est un peu une enfant. On lui pardonne un peu.
Et bien justement, elle en dit pas mal et un peu plus que dans le précédent album.
Elle a grandi,
c'est normal.
Oui, mais c'est allé vite, j'ai l'impression. On est passé d'un album encore, entre guillemets, petite fille, à un album jeune fille, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus, on va dire quoi, crue dans sa manière de parler.
Oh, elle fait un petit peu une crise d'ado quand même. J'avoue que je l'attendais un peu comme le Messie, parce que je me disais que c'est pas possible, elle va pas être sympa jusqu'à ses 18 ans.
Il y a bien les hormones vont bien.
À quel moment ça va exploser. Donc là, heureusement, ça commence bien franchement. Donc c'est vrai qu'elle commence à se rebeller contre ses parents, elle veut boire de l'alcool, voire même qu'elle aurait envie de fumer des joints.
Ouais. C'est sûr. Ah oui. À mon avis, elle vous l'a pas dit, mais bon.
Alors justement, est-ce qu'il y a un moment où vous dites, ah, est-ce qu'elle me dit tout ou pas?
Non, alors c'est vrai que les cahiers d'Esther, c'est pas un journal intime. C'est-à-dire moi, même quand elle me ment ou qu'elle me dit pas la vérité, c'est ce que je préfère en fait. J'aime bien raconter ce qu'elle me raconte, parce que tout ce que je mets en bande dessinée, c'est des choses qu'elle dit à ses parents. Non, c'est souvent son père qui me prévient de... Tu devras l'appeler, elle est rentrée bourrée hier.
Non, mais c'est pas possible.
À ce moment-là, je l'appelle, alors rien, qu'est-ce que t'as fait? Mais rien, j'ai bu 2 bières et tout. Enfin, bon, voilà, c'est plutôt dans cet ordre-là.
Donc dans l'autre sens, les parents n'apprennent rien des confidences qu'Esther pourrait
vous... Non, mais voilà, non. Ça, je veux pas avoir le rôle du psychopathe, du psychopathe qui fait le journal intime. Non, pas du tout. Non, c'est plus un peu comme dans le bureau des légendes, si vous avez vu la série, où je suis un peu le référent de l'agent. C'est mon agent secret dans au lycée, et je l'appelle de temps en temps, et elle me dit ce qu'elle fait.
Alors, est-ce que c'est cahier d'Esther j'avais un souvenir, mais je peux me tromper, sur le fait que chaque page était une mini histoire et donc une planche. Cette fois-ci, ça prend un peu plus de place. Il y a des enchaînements qui se font en allant sur plusieurs pages. Est-ce que ça veut dire que il y a plus des périodes que vous voulez évoquer que des mini-scénettes?
Alors, c'est arrivé plusieurs fois dans certains albums qu'il y a des histoires un peu plus longues, en effet, sur 2, 3, 4 pages. Dans celui-là, il y en a peut-être un peu plus parce que elle me décrit encore plus précisément ce qui lui arrive. C'est-à-dire que quand elle était petite, elle était très volubile, mais aujourd'hui, elle a beaucoup d'autodérision, donc ces histoires prennent souvent un peu plus d'ampleur. Notamment, il y a une histoire dans cet album où elle s'est retrouvée babysitter, donc elle fait du babysitting.
Tellement drôle.
Elle est babysitter de... maman complètement dépressive qui vient et qui lui dit « Ouais, est-ce que vous pouvez garder mes filles et tout, je vous paye 20 euros de l'heure ?» Elle fait « Ouais, 20 euros !» Incroyable, 20 euros de l'heure, c'est vraiment...
C'est le double et dans le même immeuble, donc c'est
dans le même immeuble, elle se dit, là, trop cool, ça y est, ma fortune est faite. Elle se retrouve babysitter de 2 racailles plus âgées qu'elle.
Un an de moins, mais plus grande qu'elle. Vous avez pas lu votre
livre. Plus grande en taille qu'elle. Et elle vit un cauchemar, voilà. Et c'est vrai que cette histoire a duré plus longtemps.
Et donc, extrêmement drôle. Et le twist de la fin de cette note-là est très drôle aussi. Il y a, évidemment, l'importance des portables, des réseaux, et puis des bandes, d'amis, du dealer de l'école qui sort avec les filles, et elle ne comprend pas comment toutes les filles peuvent être amoureuses de ce dealer qui non seulement vend de la drogue,
il est insultant.
Mais voilà, et en plus il est payé pour en fumer, c'est-à-dire que lui ça lui permet de gagner de l'argent et de pas payer la sienne.
Mais là pour le coup là il y a une planche qui est unique où il y a une scène un peu de revanche quand il est derrière des grilles.
Ah oui.
Parce qu'il n'a pas pu rentrer dans le lycée.
Au lycée.
C'est ça. Et puis, est-ce que dans le trait, dans le dessin, elle vous a demandé, parce qu'il y a une espèce de mise en abîme où elle dit j'ai envie de voir quelle forme, entre guillemets, Riyad Satouf va me donner. Et elle a dit je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que vous continuez de la dessiner comme plate, pour être précis, comme une fille qui n'est pas encore formée. Et elle dit non, j'ai des courbes, j'ai des formes. C'est vrai,
c'est qu'en fait son personnage dessiné prend quand même une indépendance vis-à-vis du personnage réel, surtout qu'elle dans la réalité elle lui ressemble pas tant que ça, parce que je dissimule quand même son personnage et ses histoires
pour
aussi.
La protéger,
je veux pas que lui détruire sa vie, bien sûr, et je lui fais lire chaque album quand il sort, elle me fait ses remarques, voilà, et c'est vrai que sur l'album,
pardon, comme un correcteur ou pas?
Ah non, pas du tout. Non, plutôt comme un avis, je veux qu'elle me donne.
D'accord.
Justement, quand elle a lu l'album précédent, c'est là qu'elle m'a dit, mais attends, moi quand même, j'ai changé, j'ai des formes, etc. Donc, faut me dessiner avec un peu plus de forme. Donc, j'ai refait des images du tome précédent en lui faisant des formes.
En la corrigeant. Mais pardon, vous faites ces images, ces dessins en corrigeant ces formes. Et la planche suivante, vous revenez fondamentaux.
Ouais, parce que c'est moi le chef de ma BD, je pense que...
Non, puis il y a eu ce coup de fil du juge.
Non, mais ça change tout. C'est-à-dire, la représentation d'un personnage, c'est quand même... ça change tout. Si, par exemple, si je faisais la vraie Esther de manière trop sexuée, ce qu'elle n'est pas forcément dans la réalité, mais si mon dessin était trop sexué,
ça changerait le propos.
Oui, ça change un peu
le
propos.
C'est plus la même chose.
Voilà, il faut que le personnage soit on se mette dedans et qu'on puisse y identifier. Voilà, c'est vrai que je tiens ça.
On a envie de la connaître. Elle fait partie de notre famille maintenant. Puis elle découvre les garçons. On va continuer d'en parler évidemment jusqu'à midi et demi avec Riyad Satouf qui est notre invité pour ses cahiers d'Esther. On est ravis de vous accueillir. C'est pas le cas de tout le monde autour de cette table, vous le savez.
Mais non.
Morgane Gadignan, la sorcière.
Encore.
Sorcière.
Regarde-moi ça, regarde.
C'est corps de bidouille.
Elle est noire.
Non, regarde désespérée. Elle est au bout du rouge.
Non, mais pardon, mais à ce train-là, va falloir me mettre sur votre testament, quoi. Parce que voir quelqu'un aussi souvent, deux solutions. Soit on est de la même famille et quand quelqu'un gueule, ça touffe dans la rue, je me retourne pas. Soit on a un enfant illégitime et j'ai personne qui vous ressemble dans mon siège bébé. Donc je pense pas. Enfin, mon siège bébé, c'est une cocotte, le creuset, au fond de laquelle j'ai mis un oreiller. Économie. Et franchement, si vous enlevez votre masque et qu'en dessous vous êtes Riyad Satouf, mais je pète un câble, quoi. En plus, vous venez ici. Vous continuez de venir, même pas une petite BD sur moi, le jeune acteur, quoi. Ah là, ça y est. Vincent par-ci, Vincent par-là, il y en a que pour Lacoste, j'en peux plus, on dirait Roland Garros. Non, mais c'est comme c'était une émission merci. Non, mais ça va, comme si c'était une émission de promo ici, Riyad, n'importe quoi. Vous voyez bien que vous êtes chez moi, en plus. Il y a mes meubles, il y a mes domestiques. Et en fait, je me disais,
c'est ça, décoré, hein.
Ça serait hyper drôle et un peu triste en fin de saison, la meuf qui devient complètement complètement folle qui débarque dans le studio en robe de chambre et comme une vieille bourgeoise frappée. Nagui, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous vous occuperez des rosiers plus tard. Allez-vous, allez retrouver votre famille sous Familia. Et qui se croit chez elle. Et en même temps, Esther, pour en revenir à elle, elle n'a que 16 ans et on vous avait reçu en juin dernier, quasi à la même date pour ses 15 ans. Donc il y a une certaine logique. En gros, on doit bosser pour fêter l'anniversaire de quelqu'un qui n'existe pas. Joyeux Noël en avance. 16 ans, bordel, le bel âge. Non, je déconne, c'est le pire. C'est horrible. T'es même pas encore majeur. Tes parents, ils te disent, dans 2 ans, tu feras ce que tu veux. Mais pour l'instant, tu fais ce que je te dis, t'es mineur. C'est alors, vrai. Je vais un peu divulgâcher la vie, mais à 18 ans, tu fais pas ce que tu veux. Juridiquement, c'est oui, mais financièrement, t'es vite bloqué par un truc qui s'appelle l'argent. Et t'as beau être jeune et appeler ça la moula, ça veut pas dire que t'en as. D'ailleurs, ça doit gâcher le plaisir de la crise d'ado d'avoir trop de thunes. Tant mieux, tu vois. T'imagines, par exemple, David Beckham, c'est quoi son levier d'autorité? Genre, change de ton, sinon je t'achète pas tes nouvelles pompes Adidas. Et son fils qui répond, c'est ton sponsor, il y en a 168 par an, plus envie. Ça suffit, monte dans ta chambre. Laquelle? Enfin, c'est infini, quoi. Alors qu'Esther, c'est une vraie ado. C'est une vraie ado du vrai monde, tellement vrai qu'il y a eu le coronavirus dedans dans sa vie. Esther, en dépit de tout ce que ça va chambouler, le Covid, elle imagine le monde d'après. Et ben voilà, Esther, j'espère que t'es pas déçue. On y est, c'est ça le monde d'après. J'espère que t'avais pris une assurance. Ce nouvel album, il m'a amené à imaginer comment je vivrais le monde de maintenant si j'avais 16 ans, parce que moi, mon monde à 16 ans, c'était contredire ma mère, fumer en cachette et aimer secrètement des garçons qui ne m'aiment pas. Rien à voir avec maintenant. Si, en fait, pardon, c'est exactement pareil, mais avec une taxe d'habitation et un estomac qui me dit régulièrement « Ah non, ça on digère plus non plus, désolé. » Mais 16 ans, franchement, 16 ans en 2022, c'est quoi? C'est quoi 16 ans maintenant? Moi, j'ai une image tronquée de la jeunesse, je les vois pas, les gens qui ont 16 ans. Et ils me voient pas non plus, puisqu'on parle sur France Inter, mais si ce sont... Je me dis que les gens à 16 ans, je crois que je les vois de loin dans la rue, c'est ceux qui sont à 12 sur des trottinettes électriques. Si, les trucs sous les croque-tops, là, et je l'envie un peu, Esther, c'est tellement cool d'avoir 16 ans, c'est tellement super, en vrai, tellement super que c'est impossible de le savoir quand il y est. Ouais. 16 ans, c'est l'âge où quand on te demande de manière générale dans la vie ce que tu veux, tu réponds « J'avoue, je sais pas trop. » Et les adultes, ils te répondent encore « Oh, mais c'est pas grave, t'es jeune, t'as le temps de décider. » Passé 30 ans, en 2022, on te répond « Oh, c'est pas grave, de toute façon, on va tous crever. » C'est cool, on a remplacé les 4 lettres de YOLO par les 4 lettres de GIEC. Et c'est con comme réponse. Et c'est sûrement ça, être éternellement jeune, c'est être éternellement un petit peu con. D'ailleurs, je vous regarde tous là, qu'est-ce que vous faites jeune?
Morgane,
Morgane à Toulon, c'est quand?
Ça va, Daniel?
C'est ce soir. J'ai eu un réflexe bizarre. Je prends la feuille et j'enlève mes lunettes. Pourquoi?
La coquetterie.
Fin de saison.
C'est la fin de saison. C'est
heureusement qu'on est en août. Hein.
Ah ouais. Et donc t'as donné la date ou pas à Toulon?
Non, il a dit Toulon. Voilà.
J'ai pas dit ce soir.
Si, ce soir.
Ah, très bien.
Daniel, il digère plus.
Ça y est, je suis en doute. Je gère plus rien.
Riyad Satouf avec ses cahiers d'Esther et cette histoire de mes 16 ans, pardon, on n'y est pas encore à l'année prochaine, En fait, je suis en train de me demander si nous, on n'est pas obligé de continuer la bande originale jusqu'à ce qu'il est fini. Sinon, il va nous dire, non, je comprends pas. Vous avez arrêté, moi je fais quoi avec mes cahiers? Vous expliquerez avec Stéphane Bern, écoutez. Non, pour en revenir à ces cahiers d'Esther de ses 16 ans, les garçons sont extrêmement... Ils ont toujours été présents, mais là, ils le sont encore plus. Et on en arrive même au fantasme. C'est-à-dire qu'elle se jette, elle prend la bouche de garçon dans ses délires, dans sa tête.
Dans ses fantasmes.
Pas dans la réalité. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que là, elle vous raconte plus que sa vie, elle vous raconte ses fantasmes.
Non, enfin, dans les albums précédents, c'était présent quand même. Elle a toujours... Elle a eu un rapport de fascination et répulsion avec les garçons. Elle les déteste et en même temps, elle adore les stars. Par exemple, dans l'album d'avant, elle était fascinée par Timothée Chalamet.
J'adore ces pages là, des beaux visages.
Il est toujours là.
Mais il y a
Neymar. Ouais, c'est ça,
voilà, avant, elle adorait par exemple Ryan Gosling, etc. Ouais. Enfin voilà, et c'est vrai qu'elle me parle souvent. C'est moi qui lui pose des questions d'ailleurs pour me tenir au courant. Je dis mais alors c'est qui les mecs maintenant qui plaisent aux filles, etc. Donc elle me sort des noms que
vous découvrez.
Notamment là, il y en a un. J'ai même oublié son nom. C'est un chanteur latino, je savais pas d'où il sortait, une sorte de muscle.
Maluma,
exactement.
Ricky Martin,
c'était en 82.
C'est bien, ça permet de dater un peu les gens.
8 siècles de retard. C'est Jérôme.
Luis Mariano.
Chico Buarque.
Tu sais qu'il est mort, Ricky Martin. Il est décédé.
C'est lui, Maluma. De toute façon,
c'est Gérard Majax.
Dès qu'un espagnol se met à gémir, ça devient un truc dingue.
T'as raison, comme Despacito.
Ça me fatigue, ça. Ouais, c'est ça.
Et c'était quoi qui aime la musique? Dès qu'un espagnol se met à gémir.
Mais ouais. Attends, c'est pas... Vas-y, va garer ta voiture ailleurs. Arrête.
Tiens, je vais balancer Nagui. Une fois, t'avais Nagui, c'était pour un taratata. T'avais des Gypsy Kings qui arrivent. Et puis, à un moment, il y a Nagui qui fait, bon, bah, tu joues. Et l'autre, il fait, attends, j'accorde ma guitare. Et Nagui lui dit, depuis quand tu l'accordes ta guitare?
Clairement. Clairement.
C'est vrai. Devant le zénith plein. Le mec te met en confiance, quoi. Le mec, il a pleuré un quart d'heure. On a perdu encore plus de temps.
Soyons clairs, c'est les Gypsies qui accordent leur guitare. Ça sonne plus Gypsy.
Mais c'est pas de la légende.
Non, du tout, c'est vrai. Je confesse. Ah, oui. Bon, revenons donc à ces beaux gosses.
Non, mais disons-le, t'es un salaud.
C'est vous qui allez à la pêche aux nouveautés, enfin aux fantasmes, ou en tout cas aux garçons qui font craquer, Esther.
Bah, oui, c'est moi qui lui demande. Voilà, je lui dis alors, cite-moi le nom de 10 mecs.
Enfin, Robert Pattinson, c'est pas le plus jeune de tous.
Non, mais c'est pas forcément des jeunes. Hein. C'est pas justement. Elle va pas. Elle me sort toute une liste que les filles aiment bien, etc. Et donc c'est vrai que mais c'est marrant de voir que cette liste évolue. C'est comme le classement des Français préférés du JDD. Là, des fois, il y a Timothée Chalamet, il est encore là, mais on sent que peut-être qu'il va être viré bientôt.
Alors tiens, justement, il n'y a pas de Français.
Ah non, si, il y a Nekfeu.
Ah oui, Nekfeu. Ah oui, c'est vrai, Nekfeu, c'est drôle parce qu'elle ne l'aimait pas trop. Puis finalement, comment ça vous l'avez parlé?
Voilà,
vous savez ce qu'avec une chico,
une
elle n'est pas accordée, votre guitare. Je viens de dire le truc. Putain, il ne sait pas dessiner, ce con. Bonjour, Riyad. Alors,
et pour tailler ton crayon.
C'est Enrico Macias. Ah non, pardon.
En tout cas, il y a des acteurs, il y a des sportifs, il y a des chanteurs, donc ça va dans tous les domaines. Et puis, il y a toujours...
Il n'y a pas de politique. C'est marrant, il n'y a pas de...
Non,
en même temps...
Qui te fait rêver, franchement.
Gabriel Attal.
Et puis, il y a le portable aussi. Elle est toujours privée de portable dans sa chambre, à 16 ans.
Oui. C'est vrai que elle n'est pas vraiment privée, elle a des horaires autorisés. C'est-à-dire, il y a des moments où elle peut utiliser son portable, des moments où elle n'a pas.
Mais alors, ça, c'est quoi? C'est pour la couper des. Les parents vous expliquent, c'est pour la couper des réseaux sociaux ou pour qu'elle dorme mieux la nuit et qu'elle ne soit pas devant les écrans bleus.
Bah, c'est exactement ça. Il y avait une histoire comme ça où, de toute façon, ses parents l'avaient surprise à 3h du matin en train d'être sur WhatsApp, etc. Et la majeure partie des gens de sa classe passent leur nuit entière sur leur portable et le matin ils sont défoncés de fatigue.
Comment ils font pour apprendre?
Ils apprennent pas. C'est un vrai
problème. On voit la prof qui se réveille. Mais tes leçons, tu les fais comment?
Bah non, mais c'est quand même
ça. C'était
Mamie Cadou. T'enregistres beaucoup de retard à ce niveau-là.
Et puis, il y a un constat, et c'est une blanche que j'ai adorée. Le constat comme quoi il y a des insultes qui sont proférées par les garçons. Et il n'y a pas la version féminine de ces mêmes insultes. On va prendre la plus simple qui est « nique ta mère ». C'est inimaginable d'avoir l'inverse. Enfin, elle analyse l'insulte et c'est un discours très féministe, mais très intelligent et très éclairé, je trouve.
Bah, c'est vrai qu'elle commence à prendre conscience de plein de choses. Par exemple, le mot « putain » que tout le monde dit toute la journée. Ah, putain.
Qui ne veut plus rien dire, pardon, dans certaines expressions.
Oui, mais il ne veut plus
aussi.
Rien dire. Ouais. Mais d'un point de vue quand même psychologique. Ouais. Et il garde son sens tout le temps. Et c'est vrai qu'elle...
Oui, mais c'est le fuck anglais qui...
Oui, mais le fuck aussi a un sens.
Ouais.
Ça aussi
mais qui ne veut plus rien dire. Non, mais c'est-à-dire que y a certains...
Non, Nagui, je ne pense pas que les mots ne veulent plus rien dire. Même si on a l'impression qu'ils ne veulent plus rien dire.
S'ils ne veulent plus rien dire aujourd'hui, ils viennent quand même de quelque part. Et c'est pas par hasard que tu dis putain pour mourir, pour...
Non, mais dans le sud, quand tu dis ah putain, quoi, qu'est-ce que t'as bien fait,
machin, ça vient quand même de putain.
Patrick Bosso qui avait dit, mais ça remplace la virgule et le point d'exclamation.
Oui, sauf que ça vient quand même de putain et ça désigne une femme qui se prostitue. Donc ça reste encore une façon de considérer la femme comme inférieure.
Je suis très déçu. Nagui, je suis très déçu. Très déçu, Nagui.
Et... Je suis fatigué.
Et alors, on suit Esther depuis maintenant 6 ans et du coup, on suit un petit peu l'actualité. Est-ce que vous êtes, entre guillemets, déçu de ne pas faire du coup des tomes un peu intemporels? C'est qu'on suit.
T'as un daron, Tom Villa, il a pris la parole comme ça.
Mais non, mais ça pataugeait depuis tout à l'heure.
C'est quoi la question?
Oh putain, Tom Trappenard.
Allez, Tom, vas-y, pardon.
Non, mais voilà, on a parlé des gilets jaunes par le passé, on parle du Covid. Du coup, peut-être que dans 20 ans, on ne saura plus ce que c'est tout ça.
Non, mais justement, pour moi, c'est ce que je préfère personnellement. C'est quand c'est marqué dans le temps. Parce que dans 10 ans ou 15 ans, je pense qu'en effet, il y aura un goût d'une actualité qui n'existe plus. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaye de bien décrire cette actualité. C'est-à-dire, qui sont les gilets jaunes pour quelqu'un qui viendrait du futur et qui lit il faut qu'on comprenne tout de suite de quoi il est question. Et c'est vrai que, par exemple, quand on lit... ça peut sembler extrêmement prétentieux ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Si vous lisez les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand,
c'est un peu prétentieux.
Vous allez voir,
c'est pas dessiné surtout.
Non, il décrit la Révolution française à Paris, et en fait, il raconte comment ça se passe avec les types qui défilent par sa fenêtre avec des morceaux de cœur d'aristocrates au bout de leur pique, etc. En fait, il décrit au jour le jour ce qu'il voit lui dans son quotidien, sa rencontre, l'histoire qu'on a appris dans les livres, mais c'est au quotidien. Je sais pas comment dire, et on n'a pas accès à ça, oui, si on n'a pas.
Très bien, mais continuons. Dans l'air du temps, il y a l'actualité, il y a l'information à la télévision, les émissions de télévision, les musiques, la bande originale de ce moment-là. Et là, on n'est pas dans cette actualité-là, un peu plus, on va dire, légère, de mode ou autre. Et puis, il y a un petit décalage aussi, parce que cet album-là raconte l'année dernière.
Un an de retard.
Parce qu'elle a 17 ans, là, maintenant, Esther.
Oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je tiens vraiment, d'avoir des marqueurs de son époque, parce que finalement c'est sûr que ce sera ringard dans il y a énormément de choses qui seront ringard. Non, mais si, il y a des chanteurs qui vont.
Non, mais daté.
Oui, c'est ça. Ce sera daté. Voilà, moi je sais que j'avais fait une bande dessinée il y a quelques années qui s'appelait Pascal Brutal, et dans cette bande dessinée, Pascal était un énorme fan de Diams. Dans le futur. Ouais. Et moi, ça me fait rire de voir ce qu'est devenu Diams aujourd'hui par rapport à son personnage qu'elle était dans Pascal Brutal. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien. Quelqu'un qui lit Pascal Brutal aujourd'hui, il revient dans le passé et il dit, mais attends, c'est la Diams d'aujourd'hui dont il parle dans le...
Ouais, forcément, il y a un décalage entre ce qu'on imaginait en le vivant sur le moment et la manière dont on le relit après.
Et en même temps, connaissant Pascal Brutal, parce que j'ai quand même l'impression de le connaître, ça serait pas complètement fou qu'il continue d'être fan de Diams aujourd'hui. Vraiment.
C'est du vrai amour.
Et puis, il y a les nouvelles insultes, et il y a surtout aussi ce comment ça s'appelle, les scouts, les chercheurs de mannequins ou de top modèles dans la rue. Avec toujours la suspicion d'ailleurs de se dire, est-ce que c'est un plan drague, ou est-ce que c'est vraiment un démarcheur, quelqu'un qui était prêt à la faire signer dans une agence ou à lui proposer de faire des séances photos. Ça lui est vraiment arrivé?
Oui, bien sûr. Oui. À elle et à plusieurs de ses copines.
Elles étaient trois, et il y a un photographe dans la rue qui dit, est-ce que je peux prendre en photo? Et là, on ne sait pas si c'est un pervers ou si c'est un pro.
Non, alors justement, je lui ai dit, mais ça te fait pas flipper? Il me dit, non, parce qu'en fait, il était assez loin de... Il s'est pas approché trop près et il avait un accent américain. Donc c'est assez rassurant. Genre, excuse-moi, je peux prendre toi en photo? Moi, je suis photographe pour mannequinat et tout.
J'appelle les flics, je vous le dis.
C'était juste un portrait, donc elles ont accepté. Puis après, elles sont allées voir son nom sur
elles
Internet,
ont
sur Instagram.
Googlisé. Voilà. C'est le seul mérite aussi d'Internet de ce côté-là, c'est qu'on peut trouver... La mémoire d'Internet permet de retracer le parcours de quelqu'un.
Ouais, donc vous n'avez pas vu l'arnaqueur de Tinder, en fait. C'est ça le truc... Où en fait, le mec s'était fait créer un faux profil, et en fait, c'était un mytho, même sur Instagram, il se crée une fausse vie.
Il s'est fait un faux passé. Ah d'accord, non, j'ai pas vu.
Oui, mais quand même, parce que quand vous êtes certifié, par exemple, vous avez le badge bleu,
qui n'est
vous pouvez pas mentir complètement. C'est-à-dire, si vous êtes un photographe certifié, alors il y a sur sa page Instagram, ce photographe avait des photos de lui avec Zoé Saldana, etc. Donc là, c'était vrai.
Ça validait.
C'était
ça
vraiment...
validait, pour reprendre un terme à la mode.
Depuis le temps que vous côtoyez Esther, au téléphone ou dans la vraie vie, je ne sais pas comment, dans quelle mesure votre personnalité ne déteint pas sur Esther? Parce que on sait que vous êtes un hypochondriaque notoire, Riad Satouf. Dans une planche, on sent qu'elle commence à être un peu angoissée.
Fragile.
Par la maladie. Ouais. Qu'est-ce que vous lui refilez?
Non, alors c'est son père aussi qui est très
bien. Qu'est-ce que vous lui refilez?
Angoissée par la maladie,
en tout
qu'est-ce
bien
que vous lui refilez?
Qu'est-ce caché?
Le père est bien choisi.
Le père d'Esther est très hypochondriaque aussi.
Aussi
voilà, c'est surtout...
C'est un grand sportif.
C'est un copain à moi.
C'est la base de notre amitié.
On a une base sur ce sujet-là.
Mais lui, il est prof de sport.
Voilà, les profs de sport. Et donc, c'est vrai qu'elle aussi, elle est très sensible à ces questions-là. Surtout avec la pandémie, les masques qui retirent, qui gardent, les gens qui ont peur, pas peur.
Elle a du mal à suivre son père pour faire un footing.
Prof de sport au lycée Royal, vous n'avez pas peur qu'on trouve facilement Esther?
Mais qui t'a dit que c'était vraiment au lycée Royal?
Je ne sais pas, c'est dans la BD.
Non, c'est dans la BD, mais non, je ne pense pas qu'on peut.
C'est vraiment le lycée Royal.
Je dissimule. Bien. Mais lycée Royal, ça n'existe pas. C'est un pseudo, un faux nom.
Qui correspond
à un lycée.
Il n'y a pas de lycée
Royal à Paris.
Vous croyez que je vais chercher le...
Non, c'est marrant, mais j'ai pensé à un autre lycée tout de suite.
Oui, Henri IV, on pense ça, mais c'est pas ça. Non.
Okay.
Le mec, il balance.
Ne dites pas trop. On ne peut pas la retrouver, c'est okay, pas possible. Voilà, ne cherchez pas, bien. Vous n'y arriverez pas.
Puis laissez-la tranquille, surtout. Les cahiers d'Esther, sauf que c'est vrai qu'il y avait des moments où elle aimerait bien qu'on sache que c'est elle pour...
À 18 ans, elle fera...
Outing
ouais.
Non, je pense pas. Non.
Bah non, parce qu'elle sera millionnaire avec tout ce qu'elle aurait gagné en droit d'auteur. Bah oui, parce que Riyad nous avait expliqué que c'était qu'elle avait ses droits d'auteur entre guillemets bloqués sur un
compte.
Oui,
cette information est top secrète. Mais il est vrai que
comment ça top secrète? Vous l'avez dit à l'antenne.
Non, mais c'est vrai. Voilà, on a un petit accord. Mais c'est vrai que Esther ne ressemble pas à son personnage. Mmh. Donc c'est vrai que les fois où elle a dit à ses copines qu'elle était la vraie Esther, elles l'ont pas cru, par exemple.
C'est drôle. Ça aussi, vous l'avez dessiné.
Voilà. Et ça, c'est vrai que, par exemple, récemment, un événement qui lui est arrivé, qui l'a vraiment marqué, c'est quand elle a ouvert son manuel de français et qu'il y avait les cahiers d'Esther dedans. Parce qu'il y a plusieurs manuels c'est qui vrai. Ont pris des images. Et elle n'en revenait pas d'être en classe avec son dessin, avec l'ensemble des élèves autour qui étaient à la même page et qui s'en fichaient un peu d'être en français et de la BD, enfin du truc. Elle disait, mais c'est moi dans le truc, mais personne ne.
Mytho.
Voilà, c'était.
C'est ça.
Voilà.
Et ça va lui coûter de l'argent. Du coup, elle est harcelée
au bout du rouleau. Ouais.
Chez Alary Édition, Riyad Satouf, Les Cahiers d'Esther, l'histoire de mes 16 ans, on en parle jusqu'à midi et demi. Voici Guillermo Guiz.
Il n'a pas encore fait
genre. Oh là.
Ça va les amigos ?
Grave.
Dites avant de démarrer ma chronique, comme Morgane, je voudrais prendre quelques secondes pour souhaiter la bienvenue à. Riyad Satouf. C'est vrai que ça peut être impressionnant cette émission quand tu viens pour la première fois. Et on est là, on est timide, on cherche ses marques et tout. Le présentateur parle fort. On ne sait jamais s'il faut répondre aux questions après 3, 4, 5 minutes. À la fin, on ne sait plus vraiment si c'était une question. D'ailleurs, on se dit peut-être que c'était un prêche. Peut-être que c'était le début d'une autobiographie. Peut-être la personne se sent juste seule. Peut-être qu'à la caisse du supermarché, on ne l'a pas laissé s'exprimer. On ne sait pas. Pauvre Riyad, c'est pas facile de débarquer dans une émission comme ça. Moi, j'avais la première fois où j'avais été invité dans le journal du Hard. J'étais perdu. Voilà. Philippe Vandel m'a mis en confiance. Il m'a dit tu peux enlever ta veste et ton prépuce, mets-toi à l'aise. Et je l'avais gardé, mon prépuce. Sinon, je mets des jours à le retrouver. Et l'autre fois, il était dans le frigo à côté des kiwis. Oh. Dis, après, ça m'étonne que je suis sujet au rhume. Et donc, je comprends que Riyad, il veut travailler avec nous. Le dessin, c'est vrai, Riyad, il veut travailler avec nous. Le dessin, c'est formidable, mais surtout quand on est enfant, quoi. C'est vrai. À un moment, t'as envie de faire un métier d'adulte. C'est vrai, genre des chroniques sur une radio sérieuse. C'est prestigieux, c'est bien payé. Avec une pige, tu peux t'acheter une petite plante ou plusieurs écrous. Vraiment, à ce propos, avant d'enfin démarrer ma chronique du jour, je voudrais juste faire un dernier petit préambule. Ça y est, je reste dans l'émission l'année prochaine.
Cool.
Ouais, je comptais arrêter, mais Nagui m'a fait une proposition que j'ai eu du mal à refuser et tout. J'avoue que, pour être honnête, je sais pas ce que je vais faire avec cette tête de cheval. par Daniel, je connais personne qui bosse dans l'écarissage, mais Daniel m'a dit je lève le pied sur les cadavres d'animaux. Bah, comme par hasard, juste quand j'ai besoin de lui. En plus, je commençais à m'habituer à l'odeur. Quand je viens ici, je mets de l'huile essentielle sous mon nez et ça passe, hein. Mais par contre, je viendrai plus qu'une fois par mois la saison prochaine. Et je crois que c'est mieux pour tout le monde. En termes de créativité, c'est pas que je m'essoufflais, c'est que je faisais un semi-marathon avec de l'asthme et une variole du singe. Vraiment, il était temps de laisser ma place à du 109. On salue ma remplaçante d'ailleurs, Marion Maréchal Le Pen, à qui je souhaite le meilleur. Vraiment. Et c'est ouf, n'empêche, on m'aurait dit que Tanguy Pastureau avait le bras si long qu'il pouvait placer ses petits protégés. Moi, je l'aurais jamais cru. Moi, je voudrais bien la voir, Marion. Tiens, trouver un sujet par semaine pour sa chronique. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas les musulmans. Oui, la semaine passée, Marion. En parlant de chronique, il est vraiment temps que je démarre celle de ce matin, même si avant, j'aimerais faire un tout dernier préambule. En vrai, j'ai eu du mal à me concentrer ces derniers jours parce que j'ai adopté un chiot, je vous l'avais
mais
dit.
Ouais, c'est moi qui l'allaite.
Trop mignon. Ouais, ça me pompe une énergie. Normalement, je gardais mon lait pour mon muesli et le reste, je le vendais à mon fromager. Déjà, ça me fait un manque à gagner. En plus, ça prend vraiment d'énergie. C'est un chiot de 5 mois que j'ai adopté. Il m'obéit trop. Franchement, dans la rue, je lui dis avance. Il me dit va te faire cuire la bite. Et on en reste là. Et c'est bien. Je fais des balades les moins productives de tous les temps. On reste dehors 2 heures. J'ai fait 11 pas. Mon application santé est en maintenance. Tu vois, vraiment, les ingénieurs croient qu'il y a un bug. Du coup, j'aurais pu vous faire une chronique là-dessus en faisant des blagues sur le fait que pour la première fois de ma vie, je ramasse des merdes de chiens dans la rue, etc. J'aurais adoré faire ça. Mais en fait, il chie dans ma cuisine, juste devant le frigo. Donc, pas dans la rue. Normal. Je travaille à la bande originale. Hein, donc, j'ai l'habitude qu'on me respecte pas. Mais là, franchement, au début, je perdais patience. Puis je me suis dit, bah non, voilà, le fait qu'il fasse ça devant mon frigo, bah c'est probablement sa façon à lui d'attirer mon attention pour me dire, il est là, ton prépuce, à côté des kiwis. Et c'est peut-être un chien pisteur, on ne sait pas. Mais c'est une responsabilité. Je dois lui donner à manger et tout pour qu'il grandisse. Quand je suis devant mon frigo, je lui dis, c'est comme ça. Ah bah, continue comme ça, j'arrête de te nourrir. Et ta taille, c'est ta taille que tu feras à l'âge adulte. Tu seras le Sarko des yinches. Et il me fait, ah ouais, tu fais des vannes sur le physique des politiciens. Je vois que j'ai encore bien choisi mon maître. Je lui dis, va au panier. Il me dit, va te faire cuire la bite. Et on en reste là. C'est vraiment bien. Du coup, voilà, je voulais vous dire qu'avant de démarrer ma chronique, je voulais vous donner le contexte pour vous expliquer pourquoi quand je l'ai écrite, c'était plus compliqué. Donc voilà, on peut y aller. C'est parti. Ça va, les amis gosses?
Ouais.
Allez, bonne émission.
Merci, Guillermo. La musique est donc présente.
Guillermo.
Ça c'est mon gars sûr. Ça c'est mon gars très très sûr.
Qui se rend il a ses lunettes surtout.
Ouais, ça y est, c'est bon, c'est chaussé. Du 8 au 11 juin. Et c'est dommage, il ne sera pas le 12 et le 13 pour la tournée des humoristes France Inter.
Chaussé.
Mais ça serait pas au Théâtre de la Renaissance peut-être, non?
Théâtre de la Renaissance, j'ai dit.
Non.
Mais maintenant, il fallait me relancer, les gars. Voilà. Je vous l'ai écrit, là, la relance.
J'ai plus de crédibilité, là. Théâtre de la Renaissance.
Quelqu'un a des lunettes?
Quelqu'un a compris quelque chose?
Au Théâtre de la Renaissance, du 8 au 11, Guillermo en spécifique. Dans l'album des Cahiers d'Esther. Il y a ici. Mais alors. D'où sort cette référence? Daniel Balavoine.
Oui, c'est
vrai.
C'est daté. Elle aime toujours Daniel Balavoine.
Ouais.
Non, c'est ça. Depuis qu'elle est toute petite.
Ça, c'est ses parents qui.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est sa grand-mère, même, pour être encore plus, plus précis.
La musique dans la vie de Riyad Satouf, on va commencer en 96. Il écoutait Daft Punk. Moi, je voudrais être batteur de Daft Punk.
C'est 96, 97, au moins.
Sans vouloir. Il l'écoutait avant que ça sorte.
Ça, c'est vrai. C'est pas pour être tatillon, c'est juste.
Il a un réseau, mais ça comme.
Et puis moi, je sais plus quoi trop dire à Riyad Satouf. Hein, parce qu'on a vraiment écumé toute votre vie, Riyad, chaque année. Alors, on est en 96. Répondez avec fraîcheur, hein, comme si on s'était jamais parlé. Vous décrochez un bac littéraire.
Mais
super.
Non.
Pourtant, les résultats scolaires sont assez mauvais, en réalité. Vous n'êtes pas un élève complètement...
Oui, bah c'est vrai qu'il était temps que le lycée se termine quand même. J'aurais pas pu faire une année supplémentaire.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'étonnamment, j'ai... Et c'est aussi... Je sais que pour Esther, qui en a vraiment marre aussi du lycée, etc., on peut quand même s'en sortir en n'étant pas très bon toute l'année, quand même réussir à avoir le bac. Moi, c'est vraiment ce qui s'était passé.
Est-ce que vous étiez le copain qu'on laisse de côté quand il y a des booms, ou au contraire, vous étiez celui qui fait rire les autres et qui est un peu...
Non, oui. Disons que quand j'étais au lycée, j'étais déjà un auteur de BD dans ma tête. Sans éditeur, vous voyez.
Moi, je parle de timidité.
Ah bah oui, bien sûr. Non, mais justement, quand j'étais auteur de BD, c'est que j'avais plus de rapport avec les gens de ma génération, de ma classe. J'étais ailleurs.
J'étais dans une bulle.
C'est je faisais des pages de BD toute la journée. Je les envoyais déjà, d'ailleurs, à des éditeurs. Et j'espérais qu'un éditeur m'appelle pour me dire que j'allais être le plus jeune dessinateur de BD de France, par exemple, que je vais pouvoir quitter le lycée et que c'était fini.
Vous avez dit je n'étais pas sympa du tout.
Bah non, c'est vrai que j'avais une tête de dépressif. Enfin,
ça a beaucoup changé.
Non, mais c'est vrai. Vous avez raison, Daniel. J'ai une tête de dépressif.
Mais pas du tout. Et après le bac, après le lycée, vous allez à l'école d'art Pivot à Nantes. Et là, tout d'un coup, c'est une vraie découverte. En tout cas, ça se passe beaucoup mieux.
Bah, vous savez, c'est comme quand on a découvert, on peut faire ce qu'on rêve de faire. Il y a un moment, on se dit, mais j'ai attendu toutes ces années, qu'est-ce que c'est bien de plus avoir de maths, plus avoir d'allemand.
C'est l'un des problèmes d'Esther aussi. Tu feras quoi quand tu seras grand? C'est quand même la question qu'on n'arrête pas de poser aux enfants autour de 15-16 ans.
Oui, oui, c'est vrai. Donc, Esther, pour les orientations des jeunes, c'est beaucoup plus, ça me semble beaucoup plus compliqué que ça l'était à mon époque.
Surtout, alors là aussi, ça sera daté, je pense, parce que la réforme du bac va encore évoluer, surtout quand il faut choisir les matières, les spécialités et ainsi de suite.
C'est très compliqué.
C'est très compliqué.
Et puis, il faut déjà savoir un peu quel est le domaine, vers quel domaine on veut se diriger. Alors Esther, elle a pas envie de travailler, en fait. Elle ne s'imagine pas du tout avec un emploi. Et donc là, voilà, c'est assez compliqué le parcours. Enfin...
En 2000, vous écoutiez Science Super Crew. À quoi correspond la musique de Sayan? Il y a Angela évidemment qui est le plus gros succès, mais on a choisi.
J'ai choisi parce que c'est un groupe qui me faisait extrêmement rire, notamment dans leur diction. Vous savez, le refrain là qu'ils sont en train de faire, il est quand même vraiment génial. Je me dis tout le temps, comment on peut... Est-ce qu'à un moment, il s'est levé Et il s'est dit, tiens, je vais faire une chanson. Et je vais... il a appelé son copain, où ils se sont vus. Ils se sont dit, tiens, écoute ça, ce que j'ai fait. C'est étonnant, quoi, de sortir ça comme ça. Comment on... ça ressemble
comment,
à rien.
Comment on devient jamaïcain en habitant Paris?
Non, moi, j'adore. C'est une façon de penser mentale complètement différente.
Vous l'avez bossé longtemps, là, pour le faire comme
il
ça.
Il a le flow, en tout cas.
Non, j'aime bien. Ouais, c'est cette diction rapide, c'est très...
Moi, je pense qu'il a un aft.
On est en 2000, Riyad, et c'est la sortie de la série Petit Verglas, avec l'enfance volée, la table de pierre, le pacte du naufrageur, déjà l'enfance.
Oui, c'est vrai, c'était ma première bande dessinée. Voilà, j'avais réussi à signer un contrat avec un éditeur, j'étais trop content. Mais je faisais pas ce que je voulais, parce que c'était pas moi qui faisais le scénario. Et donc, ça m'avait permis d'entrer dans le milieu. Donc, c'est vrai que à cette époque-là, je proposais beaucoup de projets et j'étais toujours refusé aussi. Mais voilà, j'ai pas abandonné.
En 2016, vous écoutiez Osier. Comment vous viviez la musique? Est-ce que vous avez des écouteurs? Vous travaillez en musique? Vous mettez la musique le matin en vous réveillant?
Oui, je suis abonné à des sites de streaming là, et souvent je me laisse conseiller par l'algorithme, par exemple.
Ouais.
Et c'est vachement bien. Je découvre beaucoup de choses très différentes. J'écoute beaucoup de classiques surtout. J'avoue que dès qu'il y a des paroles, ça me trouble.
Enfin, ça attire l'attention et ça vous sort de votre concentration.
On est en 2016. Vous faites partie des auteurs qui éligibles au Grand Prix du Festival de bande dessinée d'Angoulême, et vous faites partie donc de ces auteurs qui décident de se retirer de la liste. Parce que c'est une liste où
masculine,
très très masculine.
Il y avait que des garçons.
Il n'y a pas de femmes du tout.
Ouais.
Ben voilà, ça me semblait naturel. Enfin, avant d'être quelque chose de, entre guillemets, de politique, ouais, ou de dire il y a que des garçons. En fait, je pensais surtout qu'il y avait des autrices qui étaient géniales et qui n'y étaient pas. Voilà, ouais. C'était plutôt ça le.
Donc il y a une gêne.
Parce que c'est vrai qu'il y a plus d'auteurs hommes que d'autrices en bande dessinée. Mais voilà, il y avait quand même un manque criant de figures majeures qui étaient présentes et qui n'étaient pas dans cette liste.
Nous allons continuer de parler des cahiers d'Esther de Riyad Satouf jusqu'à midi et demi, évidemment. Elle a 16 ans. Esther, justement, Sophie Braun nous a rejoint. Bonjour, Sophie.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous êtes psychanalyste et psychothérapeute, membre associé de la Société française de psychologie analytique. Et nous parlons justement de cet âge. Alors, est-ce que c'est un âge clé ou est-ce que tous les âges sont des virages importants dans la vie? Est-ce que 16 ans est un âge à part?
Oui, 16 ans est un âge à part, comme tous les âges de la vie, vous avez raison. Mais 16 ans est un âge à part, et on le voit très bien dans la BD, je trouve. C'est l'âge où on passe, où tous les possibles sont là, et où on essaye de trouver ses ressources et de trouver comment on est différent de ses parents. On voit très bien comment à la fois elle est gentille, elle a besoin de ses parents, et elle a besoin aussi de s'en séparer, de s'en différencier, de trouver quels sont ses goûts, ses valeurs, ses envies et ses désirs dans la vie. Et c'est un âge très difficile, et c'est particulièrement difficile évidemment en ce moment, parce que il y a un certain nombre de désirs qui leur ont été interdits.
C'est difficile pour les enfants ou pour les parents, voire les deux?
C'est difficile pour les deux. C'est difficile pour les deux. Alors c'est difficile pour les enfants, mais je crois que c'est important de dire aujourd'hui que c'est difficile pour les enfants d'avoir 16 ans aujourd'hui, mais peut-être ça leur donne une conscience particulière de ce que c'est la vie. Du fait que oui, il y a des maladies, oui, il y a la mort, oui, il y a un certain nombre de problèmes, il y a la guerre, etc. Peut-être ils s'en souviennent. Et être plus conscient, c'est peut-être se donner aussi la possibilité d'être plus actif et de pouvoir faire quelque chose. Pour moi, la difficulté aujourd'hui d'avoir 16 ans, c'est de pas se sentir impuissant. J'ai écrit un livre sur la tentation du repli parce que ils sont très nombreux à du coup rester dans leur chambre et à se dire on peut rien faire. Oui, je crois que c'est complètement faux.
Le paradoxe,
on peut faire.
Le paradoxe des réseaux sociaux, c'est justement cette espèce de repli. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'avoir entre les mains une fenêtre sur le monde et on va se mettre sous la couette à regarder cet écran et à ne plus sortir, à ne plus vivre, à ne plus partager.
On est dans un aquarium en fait. On est comme des poissons dans un aquarium. Il faut sortir de cet aquarium.
Et ce monde de l'image, aussi, c'est-à-dire du paraître, d'être systématiquement la plus belle, le plus beau, de ne montrer que des images, de partager des images de rire, de joie et de bonheur. Ça met une chape de plomb sur les tristesses et les malheurs qu'on aimerait communiquer et soigner.
Oui, ça amplifie un certain nombre de passions tristes, comme la jalousie. Moi, j'avais des patients pendant le confinement qui étaient tout seuls dans un petit studio de 15 mètres carrés et qui regardaient des gens de leur classe être dans des familles au bord de la mer, dehors, etc. Et donc, ça
amplifie... Le moindre jardin ou balcon...
Ou même petit balcon.
Fou, bien sûr,
mais ça amplifie les mauvaises passions. Hein, je crois que c'est très, très important de le dire. Ça amplifie la jalousie, notamment. Et ça, c'est très mauvais. Ça amplifie la question de l'apparence, bien sûr, de la vitrine, ce qu'on va montrer aux autres, et pas de la vie intérieure et de ce qui nous anime. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, on les élève dans la question... Qui suis-je ? Ils doivent essayer de trouver qui ils sont. Hein. C'est une horrible mauvaise question.
Et on leur demande qu'est-ce que tu veux faire, c'est-à-dire qui voilà. tu veux être
qui
dans ce monde,
veux être,
dans la société.
Mais ils n'en savent rien. Et puis ça va se construire au fur et à mesure. Personne ne sait qui il est. Et j'espère bien parce que c'est un processus. Tout ça, c'est de la vie. Donc
c'est quoi la question alors ? Ça serait quoi la question ?
Qu'est-ce qui m'anime ? Ouais. Qu'est-ce qui me rend vivant ? Et c'est ça la question.
Vous êtes sûr que ça marche si vous allez voir quelqu'un de 16 ans en disant qu'est-ce qui t'anime ?
Non, il ne le sait pas. Mais il faut juste lui dire que c'est. Non, elle ne le saura pas. Mais vous non plus. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, peut-être vous le savez.
Moi, je sais que j'anime.
Voilà, vous animez. Mais qu'est-ce qui vous anime ?
C'est bien ce qui m'anime, ça. Vaut mieux pas que vous le disiez.
Mais en tout cas, qu'est-ce qui me rend vivant ? C'est une autre question que qui je suis. Parce qu'il y a quelque chose qui est figé dans qui je suis,
mais
ça n'est pas figé dans qu'est-ce qui m'anime.
D'accord. Donc ça veut dire trouve ta passion, dis-moi ce qui t'ouvre l'appétit.
Proposition.
Eh ouais, mais c'est pas non plus simple. C'est comme si vous mettiez un enfant devant un menu au resto en disant que tu veux manger.
On dit que la réponse, c'est le malheur de la question. Donc la question, le problème, c'est pas qu'il trouve des réponses. Le problème, c'est qu'il continue de se poser des questions. Et ça, c'est aujourd'hui ce que on dit, c'est une génération sacrifiée. Moi, je ne crois pas que ce soit une génération sacrifiée. Ils ont vécu des épreuves, à la fois individuelles et collectives. Et c'est peut-être, je ne dirais pas une chance, parce que la souffrance n'est jamais une chance, mais en tout cas, c'est peut-être un moyen de devenir plus conscient et de sortir de cette idée qu'on est tous impuissants et qu'on ne peut rien faire dans ce monde. On peut faire. Le monde de demain, il va être ce que Esther va construire, mais ce que nous aussi, on va construire. Pas seulement Esther.
La parité est évidemment quelque chose de très important, mais est-ce que les filles et les garçons sont égaux face à l'adolescence, face au changement du physique, aux hormones et à l'évolution de leur corps ?
Ils l'ont pas été pendant très longtemps, je pense, et je crois que curieusement, maintenant, quelque chose est en train de devenir un petit peu plus égal, c'est-à-dire que les filles se remettent beaucoup en question à l'adolescence, évidemment, avec le changement de leur corps, on le voit, elles demandent à ce que ces seins soient plus représentés, etc. Mais les garçons aussi, aujourd'hui, ils sont en train de changer beaucoup, et ils ont des interrogations incroyables sur qu'est-ce que c'est être un homme, être viril, sans être dans le pouvoir, dans la puissance, ou dans la violence. Hein. Et je crois que c'est une excellente question. Et aujourd'hui, l'adolescence, elle est le moment où il se pose toutes ces questions-là. On le voit aussi sur la question du genre. Alors, c'est abyssal, ces questions-là. Je crois que c'est une vraie révolution anthropologique. On est en train... Les jeunes, aujourd'hui, se posent des questions que nous ne nous posions pas. Ils ont la possibilité de se demander est-ce qu'ils sont des garçons ou est-ce qu'ils sont des filles ? Quel est leur genre ? Personne dans l'humanité ne s'est jamais posé cette question-là. Donc, qu'est-ce que ça fait pour eux, dans leur vie intérieure, de pouvoir se poser cette question-là ? On ne sait pas encore. C'est ça qui rend la période passionnante. On ne sait pas et on est en train d'inventer quelque chose. Et moi, je suis impressionnée par la créativité des jeunes et leur inventivité dans ce qu'ils sont en train d'inventer et d'avoir des initiatives locales, d'avoir des initiatives ensemble, de se poser des questions, c'est vraiment passionnant.
Parmi toutes les questions, il y a celle de l'écologie, de la santé, de la politique. L'attentat du professeur Samuel Paty est relayé dans les cahiers d'Esther, l'histoire de ses 16 ans. Également, l'élection de Trump avec l'homme aux cornes qui envahit le Capitole. C'est-à-dire des choses qui sont peut-être des images...
Ça, c'est la virilité.
Extrêmement... cette génération, et pour prendre le Covid, qui est cette pandémie gravissime planétaire, et on nous annonce que d'autres pandémies sont appelées à revenir presque régulièrement, est-ce que il y a vraiment une génération, entre guillemets Covid, même si on aimerait l'appeler autrement, elle va marquer cette enfance et cette adolescence ?
Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, elle va les marquer. Elle va les marquer différemment des générations qui ont vécu la guerre. Je dirais que nous, on a eu de la chance. On a eu 70 ans, en tout cas en Occident, un peu tranquille, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Il n'y a qu'en Occident qu'on a été tranquille pendant 70 ans. Et encore, dans ces 70 ans-là, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu plein de choses.
Des attentats.
Il y a eu des attentats. Mmh. Enfin, je veux dire, la violence, elle est inhérente à l'être humain. C'est peut-être ça dont on est en train de prendre conscience. Qu'est-ce qu'on fait de cette violence et comment est-ce qu'on devient plus conscient de la violence pour pouvoir la combattre, hein ? Pas pour se sentir impuissant, mais pour pouvoir la combattre.
Non, mais quand on a des terroristes ou des militaires face à soi, on sait qui combattre quand on a un virus.
Alors, on a quand même. Bien sûr, c'est vrai. Et c'est sûrement la question de la génération d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des dangers un peu partout. Moi, je vois beaucoup de jeunes arriver avec des questions d'éco-anxiété, évidemment, et qui me disent à quoi ça sert que je fasse des études, puisque dans 10 ans, de toute façon, le monde s'écroule. Dans la BD, c'est carrément un prof qui dit ça. Oui, oui. C'est le prof qui les déprime. Mais on n'en sait rien, l'idée de l'apocalypse, elle a toujours été là. Depuis le début de l'humanité, on pense que l'humanité, elle va s'arrêter. Et dans la Bible, si on le prend comme un texte symbolique et pas comme un texte réel, l'apocalypse, c'est une transformation. C'est des choses qui se détruisent pour que d'autres choses puissent arriver derrière.
Donc apprenez vos leçons.
Ce sont des questions...
Madame la prof.
Ce sont des questions de représentation aussi. Je suis pas du tout climato-sceptique. Je pense qu'il y a des vrais dangers. Mais ces dangers-là, vous savez, c'est le vers de Derlin que Edgar Morin cite tout le temps. Là où croient les périls, croient aussi ceux qui sauvent. C'est ça qu'il faut qu'on dise à ces jeunes de 16 ans aujourd'hui. Oui, l'époque est pleine de périls. Elle est terrible. Mais si on est plus conscient, peut-être que on va trouver notre puissance, nos ressources, et on va pouvoir en faire quelque chose.
La tentation du repli, burn-out, fatigue chronique et autres phobies sociales ou scolaires, c'est paru aux éditions Mots Conduits.
C'est ça.
Et signé Sophie Braun. Merci d'être venue à ce micro.
Merci
Sophie.
À vous.
Les prix de la semaine, c'est maintenant avec Tom Villa. Alors, quel trophée vas-tu remettre ?
Aujourd'hui, on va décerner le prix du meilleur décor. Et dans cette catégorie, les nommés sont... Premier nommé, la maison de retraite, puisqu'il y a un mouvement de grève aujourd'hui dans une quinzaine d'EHPAD du groupe Orpea. Résultat, des personnes âgées seront laissées à elles-mêmes avec zéro personnel pour s'occuper d'eux. Comme d'hab, quoi.
Tristesse.
Deuxième nommé, les services des douanes qui ont intercepté lundi une cargaison de 364 kilos de cocaïne dans les containers au port de Montoire de Bretagne. C'est la double loose. Problème de destination et de timing, le festival de Cannes était fini depuis 2 jours. Troisième et dernier nommé, l'Olympique de Marseille qui met en vente des sièges du stade Vélodrome pour la bonne cause. C'est con parce que samedi dernier au Stade de France, tu pouvais avoir des sièges gratos. Alors dans la gueule, certes, mais gratos. Et le grand gagnant est...
La cocaïne.
Les retraite. Non, les chaises du stade Vélodrome.
C'est vrai.
Lundi, 200 sièges du stade Vélodrome ont été mis en vente au prix unitaire de 300 €. Alors évidemment, c'est pour la bonne cause, c'est pour permettre à des enfants marseillais de profiter de vacances apprenantes. Donc les vacances apprenantes, c'est des vacances où le matin, c'est cahier de vacances et l'après-midi, c'est musée. Pour ta mère, c'est des vacances. Pour toi, quand t'as 8 ans, c'est quand même l'enfer. Est-ce que ça aurait pas mérité de vendre 200 chaises de plus pour que les joueurs de l'OM partent en vacances apprenantes ? Je ne sais pas. J'ai une mauvaise nouvelle. Si vous êtes fan de l'OM, elles ont été vendues très vite. C'est normal, c'est l'OM, c'est pas Bordeaux. Bordeaux, vu la saison qu'ils ont fait, ils mettaient 200 sièges à vendre. Le lendemain, il en restait 250. Donc 300 € quand même. Franchement, je suis hyper geek. Je peux comprendre que quelqu'un se déguise pour aller voir un film. Je peux comprendre qu'on attende 8 heures devant une boutique pour acheter des sneakers. Je peux comprendre qu'on fasse 10 000 km pour aller voir un match de foot. Mais alors de là à payer pour avoir un siège d'un stade de foot chez toi, même D'Amido, elle aurait pas osé. Je veux dire, remarque, c'est pratique, ça va avec rien. Mais... le maillot de Zidane, les crampons de Ronaldo, le billet Vueling Barcelone-Orly de Messi, je peux comprendre, il y a une histoire. Mais le siège F58 du stade Vélodrome, c'est une chaise de jardin. Puis tu veux raconter quoi à tes petits-enfants? Alors tiens, tu vois ça mon chéri, ça c'est les crampons avec lesquels Kylian Mbappé a couru à la vitesse de 37 km/h pendant l'Euro 2021. Et la chaise là-bas, c'est Pascal qui est garagiste à plan de cul, qui a bouffé son hot dog et une bière dessus pendant Marseille-Clermont en 2022. Voilà. Et la peinture écaillée, c'est à cause de Didier qui l'a rayé avec son porte-clés de Johnny lors du concert de Soprano. Franchement. Alors, vous notez noterai que je me permets de faire cette petite critique sur l'antenne de France Inter. Si j'étais chroniqueur à RMC, bah, j'aurais trouvé ça formidable. Non mais franchement, un siège de foot, c'est moche, c'est pas confortable. Si, je veux dire, s'ils font des mi-temps de 45 minutes au foot, c'est pas pour les joueurs, c'est pour les supporters qui fassent une pause. Alors pour ceux qui vont recevoir le siège à la maison, si vous voulez tenir devant votre télé, je vous conseille de faire des petits tolas de temps en temps. Alors c'est super pendant un match de foot, en revanche pendant un film, c'est quand même bizarre. Au tola, oui, je mets des liaisons qui n'existent pas. Et puis attention, ben, des fois en vous asseyant dessus, on a envie de crier Paris, Paris, on entend. Allez, bonne journée à tous.
Merci.
À Lyon demain.
Et où?
À Lyon.
Demain?
À Lyon.
Ben voilà, tu l'as dit. Tanguy Passureau, de quoi toi tu vas parler?
Eh bien, je vais vous parler de l'allaitement. C'est clairement le meilleur moment
de
la vie.
Celui de Guillermo, tu veux dire? Parce que c'est gênant là.
Voilà, il y a un premier banc d'allaitement conçu pour échapper au regard des chaudards qui vient d'être installé près de Lyon. Et ça, c'est bien.
Avec les lacs d'Ombre de Gilles, Morgane Davignan, Guillermo Guise, Tom Villa, Tanguy Passureau, bonjour. Daniel Morin, notre invité, Riyad Satou. Les cahiers d'Esther, l'histoire de mes 16 ans où elle est sur la couverture, déguisée pour certains enfants en sorcière. Elle est,
en clocharde.
Elle fait peur.
Ouais.
Elle fait peur.
Quand c'était avec la clocharde.
Non mais en même temps, elle a voulu être, comment dirais-je, animatrice d'anniversaire, de goûter d'enfants, c'est ça?
Tout à fait, elle a organisé l'anniversaire de son petit frère. Elle avait imaginé tout un univers comme ça, à base de films un peu effrayants, d'horreurs, etc. Puis elle s'est retrouvée avec des petits garçons extrêmement agressifs qui ne pensaient qu'à se bagarrer.
Mais c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que souvent, elle est débordée par les situations qu'elle anticipe, que ce soit quand elle est nounou, quand elle est frangine, ou même la réaction de ses parents quand elle leur annonce qu'elle sort. Et puis y compris même avec ses propres potes ou les ennemis de l'école. C'est-à-dire que c'est jamais, la réalité n'est jamais ce à quoi elle s'attend.
Bah oui, parce que je pense que comme elle gagne en autonomie et en indépendance, elle s'imagine qu'elle va pouvoir prévoir ce qui va lui arriver. Elle se dit, ça bon, j'ai une maturité, je sais ce qui va se passer, je vais me déguiser en sorcière, les enfants vont adorer, ça va être un univers de sorcière, en fait, ils s'en foutent complètement, je vais aller faire du babysitting, ça va super bien se passer, mais en fait, elle n'avait pas prévu ce qui... Voilà, elle prévoit à côté, en fait.
Qu'est-ce qui est, pour vous, la règle, la démarche de chaque planche que vous dessinez? Il faut qu'il y ait forcément une auto dérision, il faut qu'il y ait forcément un effet comique, une chute ou une valeur, un enseignement à en tirer.
Non, disons que quand je discute avec la vraie Esther et qu'elle me raconte certaines situations, j'essaye de trouver quelque chose de surprenant, mais qui puisse être un petit peu universel. J'essaye pas de faire de morale. Vraiment, c'est le truc que je veux pas.
Tout n'est pas drôle sur manifestation à République pour Samuel Paty. On est dans l'émotion, on n'est pas.
Voilà, c'est ça. Mais j'essaye quand même de mettre toujours un petit peu d'humour, ne serait-ce que dans les dessins, etc. Parce que je trouve que ça permet de faire passer même les choses dramatiques et de les rendre un peu plus dramatiques même. Mais Esther, les cahiers d'Esther, il y a toute une variété d'émotions. Parfois, elle est très positive. Par exemple, elle me parle de quel point elle aime sa famille, des moments où elle se sent très très bien avec eux, etc. C'est pas des choses vers lesquelles j'irais moi-même naturellement dans ma personnalité. Donc je la suis vraiment dans son ressenti de son quotidien.
Et elle parle vraiment, elle dit vraiment, vous me cassez les couilles à ses parents, elle...
Ouais, non, ouais. C'est plutôt son père qui m'a dit ça, il me dit, ouais, elle m'a dit que je lui cassais les couilles. Voilà, donc c'est à ce moment-là que je l'appelle et voilà. Mais elle parle vraiment comme ça.
Et ouais. Quelles sont les punitions? Parce que
c'est vraiment parce qu'ils veulent garder ça en famille et tout. C'est devenu un truc dans un livre, tout le monde le sait maintenant, tu vois.
Alors comme ça, on se fait déborder par la petite Esther.
Ouais. Sauf que j'imagine, est-ce que les parents racontent ils sont les parents d'Esther aussi?
Non, pas forcément, non.
Forcément, maintenant que...
est-ce qu'il y a des punitions? Est-ce qu'il y a des moments de tension où vous dites, non, je vais pas je vous demande pas de les raconter, mais est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez de raconter?
Non,
en fait
franchement, non. Justement, parce que je crois que j'avais choisi comme modèle, enfin, comme, disons, informateur, agent secret, une jeune fille vraiment, entre guillemets, sans histoire. C'est-à-dire, elle a pas de problèmes familiaux, ses parents s'entendent bien. J'ai fait
qu'est-ce que vous en savez?
Non, mais si je les connais bien. Mais en même temps, j'ai fait un peu ce pari. Bon, si c'est pareil, je le raconterai aussi, mais je pense pas que ça arrive. Voilà. Mais c'est.
Et l'histoire reste 2 ans, quoi.
Voilà, il reste 2 ans.
Et l'histoire.
Tenez bon.
C'est un peu comme nous avec Améo. Tenez hommage qu'à la fin des cahiers d'Esther.
Je paye la psychothérapie de couple s'il le faut.
Mais c'est vrai, je serais capable.
Et le professeur qui se décrotte le nez quand il est en Zoom pendant le confinement, c'est vraiment arrivé?
Oui, tout à fait. J'ai vu la vidéo même. Et d'ailleurs, là, je me suis retrouvé d'ailleurs avec un cas de conscience parce que c'est en même temps une histoire très précise. C'est-à-dire que c'est un professeur qui faisait un cours en visio. Et qui dit à tout le monde, il dit « Oui, excusez-moi, tout le monde est bien de l'autre côté de son écran, vous êtes là, vous êtes prêts, alors excusez-moi, parce que moi, ma caméra ne marche pas. » Et en fait, tout le monde le voyait, elle marchait en fait. Mais c'est lui qui ne voyait pas la prévisualisation. Et donc, elle leur vient pas dire « Non, c'est pas vrai, il pense que sa caméra marche pas et tout. » Et le gars, il fait « Alors, je vais faire sans caméra le cours. » Et là, paf, il commence à se curer le nez. Et il sort une énorme crotte de nez. Il commence à tourner comme ça, à faire une petite boule et à la jeter dans son salon comme ça. Je l'ai vu la vidéo.
Panier.
Parce que ça a été enregistré.
Oui,
justement, ça a été enregistré. Tout le lycée l'a vu. Tout le monde l'a vu.
Donc le prof sait que c'est lui maintenant dans la bande dessinée.
Non, parce que j'étais obligé de dissimuler. J'ai changé quand même quelques petits trucs.
Et je prends le pari qu'il
y a quand même beaucoup de profs qui se sont curés le nez pendant la pandémie. Je prends le pari de dire qu'ils vont pas forcément se reconnaître.
C'est compliqué. C'est un médium. Il se cure le nez, mais c'est un médium.
Il sait que Diego Maradona
va mourir.
Ouais. En même temps, ça, tout le monde le savait.
Oui, mais bon.
Les cahiers d'Esther, c'est drôle, c'est touchant, et puis elle est devenue notre copine, quoi. On est un peu proche d'Esther aussi. On a envie de la prendre dans les bras et de dire elle est trop mignonne, trop drôle aussi, parce que elle a un petit côté folle dingue. Elle doit pas être simple, mais elle a du caractère et c'est ça qui est agréable aussi à suivre. Et puis je pense que les parents qui ont des enfants de 14, 15, 16 ans autour de cet âge-là, qui sont en crise d'adolescence, doivent aussi le lire comme pour se rassurer en disant, tu vois, t'es pas le seul à avoir une fille ou un garçon qui...
Ça va, Nagui ?
C'est un documentaire.
Moi, ça m'a fait du bien de le lire, je te le dis. Chez Alary Édition.
Apprenez vos leçons.
Voici Tanguy Passion.
C'est mal fait, la vie. Je sais pas qui est l'origine de ce concept. J'ai un ami croyant qui m'a dit c'est Dieu. Un ami athée qui m'a dit c'est mes darons. Un ami croyant polythéiste qui m'a dit ce sont les dieux. Un ami woke qui m'a dit c'est Dieu.es. Et un ami occupé qui m'a dit barre-toi, j'ai autre chose à foutre. Oui, c'est mal fait parce que les deux meilleurs pays de la vie, on n'en a pas de souvenir. La vieillesse, super moment. On glande devant la télé, on attend en vain que des rides arrivent sur la face de Cyril Ferraud. Bon, on s'en souvient pas. Parce qu'on a le cerveau dans le même état qu'une clepsydre sur laquelle se serait assis Olivier Mine de Fort Boyard. Ce moment où, surpris, il murmure, c'est toi, Passepartout? Dis donc, mon gars. Et la prime enfance, quand on est bébé, on n'en a aucun souvenir, alors que c'est le top du parcours de vie. Le temps qu'on gagne, déjà, on n'a pas allé aux toilettes, il suffit de se faire dessus. Se moucher, on fait pas quand on a le nez plein. Un parent vient avec un mouche-bébé. Ah. C'est un tube qu'on met dans le nez du bébé et on aspire par la bouche. Sauf les gens du showbiz qui aspirent avec leur propre nez par réflexe. Un Kate Moss en 2005 pouvait prélever jusqu'à 3 tonnes de morve de bébé par semaine. Elle en faisait des crèmes anti-âge, sa gamme Nose Shit. Et quand on est bébé et qu'on a faim, il suffit de pleurer pour qu'une dame soulève son t-shirt. Parfois un t-shirt maman géniale, le gosse pleure encore plus, il dit cette cassos peut pas être ma mère. Et là, elle vous plaque contre son sein, alors que moi, par exemple, là j'ai faim. La moitié des employés à Inter sont des femmes. Et ben vous pensez qu'il y en aurait ne serait-ce qu'une qui viendrait vers moi sain à l'air en me disant viens-y voir par là mon guitan? Même pas, quoi. Alors d'accord, MeToo a eu ses côtés bénéfiques, mais ça a changé le rapport entre les gens. Laurence Bloch qui est en haut de l'organigramme, elle pourrait profiter de son statut. 5 ans que je la vois dans l'ascenseur, pas une main au panier. Parfois je roule des hanches devant elle en disant il fait si chaud. Rien. Sybille Veil, boss de Radio France, vous la croisez dans le couloir alors que vous êtes en slip de cuir à cheval sur un tapir en train de chanter Crucify d'Army of Lovers. En fait, des choses qu'on fait avec la redevance des gens, quoi.
Bien sûr.
Mais elle fuit vers France Musique en disant je préfère Schubert. Et c'est étrange, cette période où la femme allait. Parce que pendant quelques mois, 34 ans, chez certaines mères juives un peu exclusives, les femmes ont tout ce qu'il faut pour nourrir leur bébé sur elles. Nous, les pères. Pour la même chose, il faut les biberons, le lait premier âge en poudre, l'eau, à la limite, le camping-gaz pour faire chauffer l'eau. 2 heures de sortie avec le gosse, il y a 27 kilos de matos à trimballer. Il faut faire un crochet par le Pérou pour acheter un lama pour transporter tout ça. Après, vous regardez les émissions de survie sur RMC Découverte, où des gens boivent leur pipi pour subsister, vous dites, petit joueur, moi hier j'ai passé 2 heures au parc avec Timéo. En plus, vous êtes un père arabe, barbu. Au parc, vous sortez le camping-gaz. Il y aura toujours une nounou de l'Est un peu raciste pour hurler, il va se faire péter et vous faites taser par la police municipale. Alors, ok, ça amuse le bébé parce qu'il pense que vous faites le con à bouger dans tous les sens. Mais enfin, vous prenez 500 000 volts dans le dos. Après, pendant 10 jours, votre lampe de chevet s'allume dès que vous passez à moins de 16 mètres du lit. Enfin, c'est compliqué pour dormir. David Guetta a passé 30 ans toutes les nuits à faire le zouave en club club sous des lumières clignotantes, mais il est complètement décati. Enfin, physiquement, c'est une danette. Oui, les mères allaitent. Alors, ouais, sauf que c'est encore mal vu, parce que la société est composée aux trois quarts de pervers lubriques qui confondent le sein instrument d'alimentation avec le sein objet du désir dans certaines circonstances. La station de bus à 14h quand on a un bébé ne faisant pas partie de ces circonstances. Ah ben, on revient sur terre, les loulous. La vie, c'est pas la chaîne XXL. Sinon, le plombier ferait la mort à votre épouse au lieu de lui facturer 400 euros pour une chasse d'eau. Hein, sur 100 000 femmes qui donnent le sein à leur bébé, je vous assure qu'il n'y en a pas une qui le fait pour vous exciter. Ou alors, c'est un stratagème. Elle a un faux bébé. Hein, pour vérifier, attraper le bébé, lancez-le. Si elle s'en fiche, c'était un faux. Hein, si elle dit pas grave, je l'avais surtout fait pour la CAF, bon, ça va aussi. En fait, tout dépend toujours du contexte. Les femmes seins nus à Cannes pour protester contre la guerre en Ukraine, elles sont pas venues pour la soirée mousse de Pierre Lescure. Et à l'inverse, Natacha, la matrice de la Grande Motte, qui n'est pas la station dans laquelle elle habite, mais son surnom, bah, quand on la voit en vidéo, il n'y a pas de moment où elle se met hurler « Poutine, tu vas payer !» Hein, parce que les amateurs Gilles, François, Doudou, Sylvain, Babacar et Omar, ainsi que le Doberman Fifi qui sont dans la pièce, lui diraient « Eh, on n'est pas là pour faire de la politique
!» comme...
oui, parce qu'en général, les amateurs ont toujours l'accent du Sud. Oh. Même le Doberman, il fait « Eh, waffe, waffe !» Donc, bon, bref, c'est difficile pour les femmes de nourrir leur bébé en public. Voilà, c'est pourquoi a été installé le premier banc d'allaitement de France dans le parc de l'hôpital de Bron, près de Lyon. C'est un banc où la femme peut allaiter avec des petits murs en bois pour échapper au regard sexualisant des mecs. En fait, c'est une sorte de zone protégée, parce qu'il faut ça. En Islande, les députés allaitent leur bébé à l'Assemblée, quand même. Vous imaginez la différence. Et chez nous, alors, chez nous, Richard Ferrand, sur son perchoir, sera en train de baver, et Jean Lassalle entendrait une chanson païenne sur une bergère à grosse poitrine. La petite Daphné, 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 dans soutien-gorge, mais très bien, mon nez. Mais ce serait très pénible, hein, très pénible. Donc, tout dépend toujours du contexte. Oui, j'ai faim, mais je sais que ce midi, je dois plus me tourner vers ce qu'il y a à la cantine que vers la dame de la cantine.
Merci, Tanguy Passio. La gougoute à son chat.
Tanguy Pastureau qui sera à Bordeaux.
Cette temporalité.
Tu fais exprès.
Le 27 novembre.
T'as le sens du rythme, toi.
Au théâtre féminin.
C'est son rythme. C'est son rythme.
Bordeaux, le 27 novembre.
Ouais.
C'est ça. Les cahiers d'Esther, Riyad Satouf.
Il y avait un problème.
Un million. Non, c'était pour être sûr, parce qu'il y a eu un problème quand lui lit les informations.
Ça y est, c'est ma faute.
Un million et demi de lecteurs de ces cahiers d'Esther. Est-ce que vous savez.
Qui ils sont
si ce million et demi, entre guillemets, est fidèle. C'est-à-dire, quand on a été pris dans les mailles du filet des cahiers d'Esther au premier tome, on ne peut pas ne pas lire les suivants, ou est-ce qu'il y a des nouveaux lecteurs qui arrivent en cours de route? Comment savoir ça, d'ailleurs?
Non, c'est un lectorat assez fidèle. Alors, c'est drôle parce que il s'est passé un truc depuis 6 jours, là. Ça fait 6 jours qu'il s'est passé quelque chose d'assez étonnant.
Roland Garros.
Non, c'est que les cahiers d'Esther, ça a été adapté en dessin animé. Il y a quelques années, 3-4 ans.
Bah oui.
Et en fait.
Ça fait pas 6 jours, donc.
Et depuis 6 jours, ça a explosé de manière complètement mystérieuse pour moi sur TikTok. Ça a été vu 280 millions de fois.
Mais non.
Par des. Alors, TikTok, ça va de 11 à 24 ans. Et
oui, enfin, si, on a 25,
si vous allez faire un tour sur TikTok, vous allez voir, vous tapez les cahiers d'Esther, il y a des milliers de vidéos, de réactions sur ce truc-là. Et en fait, les jeunes, entre guillemets, parce que les cahiers d'Esther, c'était pas forcément destiné aux jeunes, c'était une bande dessinée pour adultes, plutôt sur des jeunes, mais ça passe dans l'Obs, qui est un magazine pour adultes, etc. Et là, les jeunes ont découvert cette bande dessinée grâce aux dessins animés.
Et s'identifient maintenant.
C'est incroyable. Ouais. Ça m'a marqué. Alors,
ça vous a marqué, mais au point de vous toucher, de vous faire plaisir, c'est-à-dire que c'est émotionnellement.
Ah oui, mais bien sûr, parce que par exemple, dans le premier tome des cahiers d'Esther, Esther racontait qu'avec des élèves de sa classe, elles harcelaient un petit garçon qui s'appelait Mitchell, et qui était trop gentil, trop mou, etc. Et donc, en fait, sur TikTok, il y a eu une sorte de mouvement, mais depuis 6 jours, hein, c'est de gens qui veulent retrouver qui est Mitchell, comment il va, est-ce que c'est du harcèlement. Il y a des vidéos où on voit des gens qui regardent le dessin animé où Mitchell se fait harceler et qui se mettent à pleurer. C'est vraiment étonnant. Et donc, pour le coup, là, il y a toute une branche de nouveaux lecteurs qui est apparue. C'est les gens dont je parle dans les cahiers d'Esther.
C'est publié chez Alary Éditions et, encore une fois, c'est drôle et intelligent. Histoire de mes 16 ans, signé Riyad Satouf. D'autres événements culturels, Leïla.
Christopher Walken vient de rejoindre un des projets les plus attendus du cinéma du moment. De quel projet s'agit-il?
Le nouveau Spielberg.
Non, mais c'est un truc... c'est une suite.
C'est...
Dune.
Ouais, absolument. Wow. Il rejoint ainsi Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson.
Qui est dans les cahiers des stars, Timothée.
Absolument. Le premier Dune avait coûté très cher, 165 millions de dollars de budget. Il avait quand même ramené 400 millions de dollars, donc c'est une opération...
C'est un bon placement.
...plutôt sympathique. Ils n'ont donc pas hésité très très longtemps avant de lancer le deuxième tome. Et donc, il y a en effet Christopher Walken avec ce film réalisé et adapté par Denis Villeneuve. On parle cinéma, on en a parlé cette semaine, vous concernant, avec un retour à la réalisation.
Les Inconnus.
Oui.
Bah, assumez. Vous avez l'air gêné d'en parler.
Mais non, mais parce que je suis un petit peu superstitieux, j'aime pas parler d'un projet tant qu'il est pas fait.
Ouais.
Mais
c'est vrai que vous l'avez tourné.
C'est sorti.
Non, pas encore. On est en train de travailler dessus. Non,
parce
c'est un projet.
On a 2023 comme date de sortie. Oui, faut aller vite alors.
C'est pour mon stress mental, mais non, bien sûr.
Fin 2023, début 2024.
Non, c'est un projet en cours. Non, tout à fait.
Et alors qui écrit?
Qui sont les Inconnus?
Qui sont-ils?
Attendez, on a envie de savoir
de quoi on parle. Ouais, on pour le coup.
En fait, Riyad va réaliser un prochain film dans lequel il y aura les Inconnus.
Les trois réunis à nouveau. Alors, Pascal Légitimus, Didier Bourdon, Bernard Campan.
Qui écrit, qui...
Non, mais j'ai mon cœur qui serre quand on en parle là, parce que c'est trop stressant. Non, en fait, j'ai proposé un film aux Inconnus et ils sont partants, voilà.
C'est vous qui avez donc écrit le scénario.
Écrire et réaliser, oui, bien sûr, oui.
Et avec eux, un petit peu, à l'écriture.
Oui, bien sûr.
Didier Bourdon qui va jouer Esther.
Et ben, il serait très bon.
Ils ont été difficiles à convaincre parce que longtemps, on a posé ces questions aux Inconnus quand ils venaient séparément dans l'émission. Et on sentait que Bernard Campan, c'était pas encore tout de suite, il n'était pas prêt à repartir. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont décidés, qu'ils vous ont dit oui?
Le fric.
Non, c'est compliqué, c'est une rencontre, voilà, je sais pas comment. Moi je les adore, enfin j'adore les Inconnus depuis toujours, mais pas seulement pour leurs sketchs, pour aussi leur façon de voir le monde. Je sais que quand j'étais ado, j'étais évidemment énormément fan et quand je vois des films, par exemple à Cannes, j'imagine que ça le fait à beaucoup de gens, mais quand vous regardez certains films cannois d'auteurs, etc., j'ai souvent l'impression que c'est Bernard Campan qui joue le rôle de la fille ou que Didier Bourdon
c'est déjà une parodie, quoi.
Je trouve que Didier Bourdon ressemble vraiment physiquement à Léa Seydoux, par exemple. Souvent, quand je vois Léa Seydoux.
Sympa.
Et j'ai souvent l'impression, je vois souvent comment il la jouerait dans un sketch, ouais, par exemple.
Et pourquoi ne pas demander à trois acteurs de jouer votre scénario et de faire votre film? Pourquoi ces trois-là? C'est-à-dire, pourquoi reprendre une bande alors que ça pourrait être trois acteurs différents?
Ah, mais vous savez, on fait des choses de manière personnelle, Nagui. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de projet en me disant ça va être un truc. C'est un rêve de pouvoir faire film avec les Inconnus.
Ok. Voilà. Donc je règle un compte
avec moi-même.
C'est ça.
Voilà. Et la ressemblance que vous venez d'évoquer avec Léa Seydoux, est-ce que ça va être aussi un des moteurs du film?
Je ne vous en dirai pas plus. Je dis juste que les Inconnus sont des acteurs géniaux. Extrêmement sensible.
C'est un remake de La vie d'Adèle avec Didier Bourdon.
J'irai le voir.
Ça sera le procès.
Autre question, ouais. Quelle comédienne française sera l'héroïne de la série Désordre à la rentrée sur Canal+. Vous la connaissez tous.
C'est d'où?
Non.
Adèle Exarchopoulos.
Une rentrée qui sera chargée parce que cette comédienne sera sur scène aussi.
Foresti.
Florence Foresti. Oui, bah oui. Sur Canal+, dans une série qui vous invite à entrer dans le quotidien de l'humoriste pendant la création de son spectacle Épilogue en 2017. L'idée, c'est de la voir vraiment à la ville et de voir comment ils peuvent raconter ça en 8 fois 30 minutes.
Je suis tellement fan de Florence
Foresti.
Vous êtes
client de Florence Foresti.
J'adore, oui, aussi, oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous regardez en série en ce moment? Est-ce que ça serait aussi une envie de vous lancer dans la narration, dans la réalisation d'une série? C'est encore une autre chose.
Ah oui, c'est vrai que c'est un moyen d'expression très, très puissant. Mais après, dans tout ce qui est audiovisuel, notamment les séries, etc., on peut choisir de se lancer dans une série, mais il faut trouver des gens avec qui seraient d'accord pour se lancer avec vous dans la série. Et c'est des financiers, enfin, les chaînes de télé. Vous voyez, par exemple, récemment, il y a Fanny Herrero qui avait fait une série pour Netflix.
Drôle,
qui a été annulée de manière extrêmement violente.
Enfin, ils sont pas passés à la saison 2.
C'est sûr, on croit qu'on a beaucoup de liberté quand on est créateur, mais on peut être au top et pas. C'est quand même les chaînes de télé qui dessinent.
Ouais, ce qu'on a découvert, c'est que les plateformes ont finalement le même comportement que les chaînes commerciales,
oui,
c'est-à-dire au moindre souci d'audience, ils arrêtent tout.
Sauf que les revers, forcément, c'est inhérent à la vie de créateur et d'artiste. Donc on s'arrête pas à ça et on se dit pas, je vais pas créer parce que ça peut être un four.
Sinon,
fait plus rien.
Voilà,
c'est vrai. Mais dans le cadre des séries, c'est vrai que c'est il y a une visée quand même commerciale, disons de l'ordre de l'addiction. Oui. Alors on essaie de capter un public et de le tenir sur le long terme.
C'est ce que vous faites avec Esther.
Bah oui, je préfère le faire en bande dessinée. Ouais. Voilà.
Très bien. Comment Vincent Lacoste a réagi quand il a su que vous tourniez avec les Inconnus et pas avec lui?
On ne sait pas, il est peut-être
non, dedans. Non, mais Nagui, je suis touché par votre curiosité, mais il est trop tôt pour parler de... Comme s'il dit, qu'est-ce que tu feras quand tu auras le bac? Non, j'en suis en train de le passer, j'ai 2 de moyenne générale, on verra. Il ne faut pas parler du futur.
Mais vous devinez...
Dis l'auteur de l'Arabe du futur.
Parlons de l'Arabe du futur, lui il va arriver.
Oui, tout à fait. Alors là, pour le coup, lui, à Noël prochain.
Et ouais. Pascal Brutal, on en parle.
Oui, Pascal Brutal. Nous, on va un retour de Pascal Brutal. Vraiment.
Non, mais c'est compliqué. Voilà, Pascal Brutal, c'est une bande dessinée que je faisais quand j'étais plus jeune.
Oui,
à l'époque
mais dites oui, en fait.
Mais non, je peux pas.
Pourquoi?
Parce que le monde est devenu pire que ce que je racontais dans Pascal Brutal à l'époque.
Des excuses, Daniel Morin présenté.
Ah, rien de tout. Désolé pour la communauté gitane, la jeunesse, les Espagnols. Bref, tous ceux qui ont été visés par les saillies réac et racistes de Nagui. En même temps, Guillermo a raison. On est chez nous, merde. Bien vu, Guillermo. Désolé pour nos rares auditeurs férus de culture qui, ce matin, se sont claqués au sens propre du terme, en faisant un grand écart entre les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand et les citations de Patrick Bosseau. Ah, désolé, c'est vendredi, il y a toujours un peu de drogue qui traîne à la rédaction. Désolé pour la ligne éditoriale de cette émission qui a pris un sacré coup de pelle dans la gueule, ouais, avec en vrac un débat autour de la mort ou non de ce Jérôme. Un hommage très enjoué à Marc Dutroux. Nagui qui répond au téléphone en pleine émission, tranquille. Morgane qui se caresse, on va de fou. Elle l'a dit, bon, je vous le dis, les gars, ça sent le dépôt de bilan. Et d'ailleurs, lundi, on passe en diffusion, et ce sera la chauffeur. On prend plus de risques.
Là, ouais, au moins, on est sûr de nous.
Et encore, on ne sait pas, faudra écouter.
Pas de dérapage. Et on aura M mardi en direct pour à la fois faire du live et parler de son album Rivalité. Les Cahiers d'Esther, merci beaucoup. Et
merci à vous.
On se voit quand?
Décembre.
Ah bah écoutez,
vous revenez pour la.
C'est vous qui décidez, Nagui. Hein,
Nous, on est là l'année prochaine, et vous?
Ah bah oui, moi j'espère que
vous avez signé aussi. Très bien.
Et mardi.
Les vous êtes dispo, mardi.
Parce que j'ai un petit trou.
Bonne journée. Bonne journée.
Et bon week-end.
À lundi pour réécouter Alain Chamfort et mardi pour M.
Et fermez les rideaux.
Bravo.
Salut l'artiste.
Et tout de suite, nous retrouvons les carnets de campagne de Philippe Bertrand.